Merci d'abord d'être venus nombreux pour écouter un travail passionnant consacré à un Bordelais et Béarnais illustre, André Pomies, créateur du corps franc Pomies. Le travail qui vient d'être réalisé par Jean-André Pomies, le fils d'André Pomies, à partir des archives personnelles de son père, ainsi qu'à partir de très nombreux entretiens, constitue un apport très important à la connaissance de l'histoire de la résistance dans le Sud-Ouest. Aussi, je me réjouis particulièrement que la librairie Mola ait accepté de bien vouloir recevoir aujourd'hui Jean-André Pomies. Ma première question va être toute simple. Il s'agit d'expliciter le titre choisi pour ce travail, Le corps franc Pomies, une armée dans la résistance. Qu'est-ce qu'un corps franc? Pourquoi le corps franc Pomies? Et pourquoi une armée dans la résistance?
Bien, bien, je vous remercie d'être venu ce soir. Et je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes réponses. Alors, qu'est-ce qu'un corps franc, d'abord? Un corps franc, c'est une unité militarisée. Les premiers corps francs dans l'armée française sont apparus lors de la Première Guerre mondiale, en 14-18. C'était les unités d'élite d'un certain nombre de régiments. Unité d'élite, cela signifie des unités prêtes au sacrifice. Elles avaient essentiellement pour rôle de harceler l'ennemi, de réaliser des coups de main et également de fournir des renseignements. Ces corps francs ont été reconstitués en 1939-1940 et ils avaient d'ailleurs pour insigne l'étoile noire. L'étoile noire que nous retrouvons comme un signe du CFP. Donc, un corps franc, et pourquoi le corps franc Pomies? Eh bien, tout simplement parce que cette unité a été créée par, comme vient de le dire M. Lipa, a été créé par un jeune commandant, André Pomies, d'origine bordelaise, au lendemain de l'entrée des Allemands dans la zone sud. Et en effet, que le débarquement allié des 7 et 8 novembre 1942, ce débarquement a eu pour conséquence immédiate l'invasion de la zone libre par les Allemands. Et autre conséquence, la dissolution de l'armée. Il y avait encore une armée de 100 000 hommes, que l'on appelait l'armée de l'armistice. Sur l'ordre d'Hitler, l'armée française est totalement dissoute. Donc, quelques jours plus tard, le 17 novembre 1942, Pomies décide de créer ce qu'il va donc appeler un corps franc. Il va l'intituler corps franc pyrénéen ou corps franc P, qui va devenir donc par la suite, lorsque les hommes connaîtront l'identité de leur chef, et dans un besoin d'identification que l'on a à ce moment-là. On est dans l'armée de Lattre, on est dans l'armée Leclerc, on est dans l'armée Juin, etc. Donc il y a besoin d'identification. Et le corps franc pyrénéen va devenir le corps franc Pomies. Voilà.
Vous l'intitulez « Une armée dans la résistance ». Enfin, c'est le sous-titre. C'est une caractéristique bien particulière du corps franc-prussien d'être une armée dans la résistance. Parmi les mouvements de résistance, le corps franc-prussien donc est constitué à la base d'officiers et de sous-officiers, et c'est une donnée très importante de sa réalité.
Oui, en effet, lorsque il crée cette unité, Pommiès souhaite qu'elle soit encadrée par des militaires de carrière, officiers, sous-officiers. Au départ, il n'envisage pas une unité de grande dimension, comme ce sera le cas par la suite. Au départ, il s'agit de créer dans les 10 départements du Sud-Ouest qui forment la R4, il s'agit de créer des petits groupes d'une trentaine d'hommes, encadrés donc par des militaires et chargés de réaliser des sabotages et du renseignement essentiellement. Voilà quel est l'objectif au départ. Donc, encadrement militaire, et le corps franc restera ainsi, et également apolitique. Car c'est l'une des caractéristiques essentielles du corps franc, c'est d'avoir toujours refusé la politique dans son sein.
Alors, Pommiès est en effet un militaire, et il serait peut-être intéressant de donner quelques précisions sur sa propre formation. Il était saint-cyrien, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur l'itinéraire de Pommiès avant le déclenchement de la guerre en mai 40?
Bien, comme vous venez de le dire, Pommiès est saint-cyrien. Il est breveté de l'école de guerre. Et à sa sortie de l'école de guerre, il est muté à sa demande en Tchécoslovaquie. Et il est nommé à l'école de guerre tchécoslovaque.
À Prague.
À Prague. Et de Prague, évidemment, il va assister aux prémices du conflit avec, bien sûr, les accords de Munich. Les accords de Munich qui vont être dans l'esprit de Pommiès, qui vont être décisifs, car il va alors découvrir la France est capable de l'acheter. Il considère en effet que l'abandon par la France de la Tchécoslovaquie est une lâcheté. Et il ne l'admet pas. Et donc, lorsque par la suite il constatera d'autres lâchetés, eh bien évidemment, il se révoltera. Je crois que cette période tchèque est essentielle dans son cheminement.
Un autre élément qui me paraît intéressant, c'est l'intérêt de Pommiès pour le renseignement.
Oui, en effet, lorsqu'il est nommé à l'école de guerre à Prague, parallèlement, il fait du renseignement. Il voit donc bien comment se déroulent les choses et comment on manœuvre Hitler et manœuvre l'armée allemande. Il fait du renseignement et il va retrouver ce renseignement lorsque, après les accords de Munich, il rentre en France. Il appartient alors au service de renseignement et je dirais qu'il va faire toute la guerre 39-40 dans ses services de renseignement, sans grande gloire, mais de façon assez efficace, semble-t-il.
Alors, d'autre part, il est important d'indiquer l'existence donc, de l'armée d'armistice et peu après d'un mouvement qui va s'appeler l'ORA ou l'OMA. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions là-dessus?
Oui, lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque il décide la création de ce corps franc, c'est donc sous forme de petits groupes, dans chacun des 10 départements du Sud-Ouest, mais Après des débuts difficiles, il faut bien le dire, il rencontre quelques refus de la part de certains officiers sur lesquels il comptait. Mais après un début difficile, le recrutement s'accélère et un recrutement de qualité. Donc, à ce moment-là, il envisage une unité beaucoup plus importante, beaucoup plus structurée. Et le 17 février 1943, donc 3 mois après la création de son corps franc, il rencontre le colonel Pfister, qui appartient à l'organisation de résistance de l'armée. En effet, lors de la dissolution de l'état-major, certains généraux, certains officiers ont décidé de créer une organisation de résistance qu'ils vont appeler l'ORA et qui, à ses débuts, sera placée sous le commandement du général Frère, qui sera arrêté par la Gestapo par la suite. Donc, le 17 février 1943, Pommiès rencontre le colonel Pfister dans le hall de la gare Matabio, à Toulouse, et Pfister lui propose donc de devenir le responsable, le chef de cette organisation de la résistance pour la région R4, c'est-à-dire donc les 10 départements du sud-ouest.
Sauf Bordeaux, les Landes. Et les Basses-Pyrénées voilà, qui sont occupées.
Oui, exactement. Alors, il hésite. Il hésite, mais il obtient la garantie que ce Laura restera apolitique. Alors, il ne veut pas, je vous l'ai déjà dit, il ne veut pas de politique au sein de son unité. Donc, ayant reçu cette promesse, cet engagement du colonel Pfister, Pommiès accepte. Ça ne l'engage pas à grand-chose, car il ne sera le chef que de ce qu'il aura créé. Il ne sera le chef que s'il recrute. S'il ne recrute pas, il n'y aura rien. Donc, ce commandement est un commandement, on dirait un peu fictif, mais tout de même lui permettra de recevoir des armes, de l'argent, qui sont les deux nerfs de la guerre, et puis également de recevoir des moniteurs de sabotage et des radios qui lui permettront d'être en contact direct et permanent avec Londres et Alger. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, bien, il décide de faire de l'ORA une véritable organisation de résistance dans le Sud-Ouest.
Un des atouts de votre livre, c'est le jeu qui existe entre, d'une part, les actions de Pommiès et du corps franc Pommiès, et d'autre part, le contexte général, qui est quand même très important, que ce soit avec ce qui se passe en France, ou avec également Londres ou Alger. Et ça, c'est très important. Alors, dans le sud-ouest, Pommiès réside dans la région toulousaine. Et là, certains mouvements de résistance se sont constitués, se mettent en place. Et Pommiès va entrer en rapport avec certains de ces mouvements de résistance, notamment le mouvement combat, et puis ensuite qui va être intégré lui-même ensuite dans les mouvements unis de résistance, les murs. Et les rapports du corps franc Pommiès avec les murs vont être relativement difficiles. Et là encore, un des atouts remarquables de votre livre, c'est de préciser les personnes et les actions qui se mettent en place au cours de cette période. Et ces rapports, donc, je répète, assez un peu conflictuels entre Pomies et les représentants de l'armée secrète, qui est au départ un organisme créé par Combat effréné.
Oui, effectivement, les relations entre Pomies et les autres organisations de résistance ont souvent été difficiles. J'ai intitulé d'ailleurs le chapitre qui traite de cet aspect-là, je t'aime moi non plus, car c'est à peu près ça. Ça résume assez bien la situation, c'est-à-dire que la fusion des diverses organisations de résistance dans une seule entité, cette fusion est souhaitée par les uns comme par les autres. Pomies souhaite cette unité. À deux ou trois reprises, elle semble possible. Elle semble possible lorsque l'armée secrète est dirigée par Verdier ou par le capitaine Pélissier. À ce moment-là, il y a un espoir. Mais très rapidement, la politique vient se mêler aux tractations qui ont lieu et aboutissent à chaque fois à une rupture. Et tout au long de la période de 42 jusqu'à 44, effectivement, les relations seront très difficiles parfois.
D'autant plus que les Allemands font des ravages dans les organisations de résistance et que certains des résistants du début sont soit emprisonnés ou envoyés en Allemagne ou carrément exécutés. Et donc, il y a une nouvelle génération qui arrive et une génération qui est certainement plus politisée que celle de départ, comme notamment un Freiné, par exemple.
Oui.
Et donc, ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre en compte dans l'évolution de ces mouvements de résistance.
Oui, absolument. Les organisations de résistance connaissent parfois, souvent même, hélas, des coupes sombres qui sont dues à la répression allemande. Et les jeunes générations, disons, qui arrivent derrière sont sans doute moins ouvertes à la négociation et aux concessions. Certains. Bon, un homme comme Verdier, qui était extrêmement ouvert, est arrêté par la Gestapo. Il est exécuté, pendu dans la forêt de Boucon, une grenade dans la bouche. Bon, un homme comme Verdier était sans doute susceptible de parvenir à une entente. Mais les hommes qui sont derrière n'ont pas la même vision, la même optique de l'intérêt général.
Je dois signaler que vient de paraître aux éditions Privat aussi, oui, un livre consacré à François Verdier, rédigé par une historienne toulousaine. Et c'est un élément très intéressant aussi concernant les mouvements de résistance dans la région de Toulouse. Alors ensuite, il y a quelques dates qui sont très importantes dans l'évolution d'abord de la guerre en général et du confront Pomies. Il y a d'abord le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Alors qu'est-ce qui se passe pour le confront Pomies à ce moment-là ?
À ce moment-là, bien le Corps France sort de la clandestinité. Pendant toute la période de clandestinité, comme je l'ai dit, il s'est consacré au sabotage et au renseignement, mais en même temps, bien entendu, il a effectué le recrutement. Si bien que le 6 juin, ce sont 12 000 hommes qui se présentent à l'appel. 12 000 hommes, c'est beaucoup, c'est trop. ça paraît paradoxal, mais 12 000 hommes, c'est aussi... il faut les armer, il faut les équiper. Donc on ne peut équiper que 9 000 hommes. Et ce sont eux donc, qui se lancent dans la guérilla. La guérilla ouverte, la guérilla permanente pendant 15 jours. C'est l'ordre, ce sont les ordres de Londres. Il faut absolument fixer les garnisons allemandes qui sont dans le sud-ouest et les empêcher de rejoindre la Normandie. Alors cette mission de guérilla va être remplie. Les Allemands se demandent ce qui se passe. Le général allemand qui commande la garnison de Tarbes, qui sort tous les jours dans sa voiture décapotable, sans aucun souci, tout d'un coup se cloître dans la caserne, n'ose plus sortir. Les Allemands sont véritablement paniqués. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Cette mission de harcèlement dure 15 jours et au bout de ces 15 jours, le corps franc reçoit l'ordre de ralentir son activité. Les effectifs vont être réduits à 3600 hommes. Et il y a que si cela contrarie Pommiès, évidemment, de notre côté, il est plutôt satisfait parce qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent, les 15 jours de guérilla active ont asséché son trésor de guerre. Il va donc être obligé d'avoir recours aux réquisitions et également de son propre chef. Il lance un emprunt d'ailleurs dont la totalité sera remboursée par le gouvernement après la guerre. Réduction des effectifs, mais aussi contre-attaque allemande. La contre-guérilla allemande s'organise, les Allemands se rendent compte à qui ils ont affaire, et donc ils organisent des colonnes de contre-guérilla, des colonnes de répression qui... renseignés par les agents de la Gestapo et leurs alliés, de la milice en particulier, vont faire régner la terreur dans tout le sud-ouest. On a l'exemple ici d'un certain nombre de villages, comme petit village de Portette dans les Basses-Pyrénées, c'est ainsi qu'on les appelle à l'époque. Petit village qui va voir arriver une colonne d'environ 1500 Allemands, lourdement armé et qui attaque une unité d'environ 180 à 200 hommes du corps franc qui, en dépit des ordres qui étaient donnés à leur chef, stationne dans ce village un peu trop longtemps.
Il s'agissait de Milleret, le chef.
Oui, le chef était de Milleret que l'on va retrouver dans le Médoc. Voilà. Et donc, cette période est une période... qui du 21 juin jusqu'au 14 août, donc pendant 51 jours, va être une période très difficile pour le corps franc. Mais le 14 août, il reçoit l'ordre de recommencer la guérilla.
Alors c'est une date très importante, le 14 août, c'est le débarquement de Provence. Et c'est une date clé dans les hostilités en France, parce que les armées allemandes, là, vont être prises entre deux feux, le front de Normandie, qui part de Normandie, et le front de Provence. Et les armées allemandes vont évacuer assez rapidement le sud-ouest, soit par le nord, mais plus encore en regagnant la Méditerranée par Narbonne, Montpellier, et en remontant la vallée du Rhône. Et alors là, le corps franc Pommiès va connaître, je dirais, quelques heures de gloire et va passer à une action qui va être offensive.
Oui, très offensive. Oui, absolument. Ce sont les grands combats de la libération. que ce soit le combat de l'île Jourdain où la garnison d'Auch est contrainte à la reddition, que ce soit les combats de Tarbes également avec la garnison de cette ville, que ce soit la Soule, hein, la libération de la Soule,
Montléon,
que ce soit les combats de la Vallée d'Aspe également contre la garnison de d'Oloron qui tente de passer en Espagne, et que ce soit encore le combat de Montauban par exemple. Tous les grands combats, le corps franc participe à tous les grands combats de la libération dans le sud-ouest. Et ensuite, eh bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe notamment à Toulouse? Et quelles vont être les suites de ces événements de Toulouse vers la fin du mois d'août, disons?
Oui, à fin août, le sud-ouest est libéré. Et ça chauffe à Toulouse. Hein. D'ailleurs, le général de Gaulle viendra à Toulouse pour remettre un peu d'ordre. Ça chauffe entre les organisations de résistance. Alors, pour tenter de calmer le jeu, il est décidé de former une colonne d'environ 8000 hommes qui va partir à travers le Massif central en direction du Morvan, de façon à intercepter les colonnes allemandes qui se replient du sud-ouest
et de Provence.
Et de Provence, et vont tenter d'atteindre d'abord Autun, qui est une ville clé où se trouve une forte garnison allemande, et ensuite par Dijon, Belfort, etc., gagner l'Allemagne. Donc, une colonne est constituée, je l'ai dit, de l'ordre de 8000 hommes. 3500 appartiennent au corps franc. Et le corps franc part en tête de cette colonne, ce qui va le faire se confronter très rapidement aux Allemands. Les colonnes arrivent à proximité d'Autun au moment où débarquent des trains et des divers véhicules automobiles, les premières unités du corps franc. Donc, ce sont ces unités qui vont d'abord, je dirais, excusez-moi l'expression, mais prendre dans la gueule ces Allemands, les colonnes allemandes, vont être appuyées ensuite par l'arrivée du 2e dragon, qui est un flanc-garde de la première armée du général Delattre, qui remonte depuis la vallée du Rhône. Donc la première armée arrive, il va y avoir là une rencontre émouvante d'ailleurs, dans la mesure où l'un des premiers hommes du 2e dragon que rencontre Pommiès, c'est le commandant de Neuchèze qui, à Auch, dans le Cher, a été un des premiers à adhérer au corps franc. Et il a dû quitter le Ger, il a dû quitter Auch parce qu'il était brûlé, comme on disait. Il était brûlé, il avait rejoint le 2e dragon en Afrique du Nord. Et à Digoin, Pommiès et de Neuchèze tombent dans les bras l'un de l'autre. On dit une rencontre très émouvante, d'autant plus que deux jours plus tard, le commandant de Neuchèze est tué sur son char. Donc, bataille d'Autun du 7 au 11 septembre. La bataille est remportée par les unités françaises. Et maintenant, eh bien, il va falloir continuer vers l'est. Mais cette fois-ci, ce sera au sein de la première armée du général Delattre. Donc, à Dijon, le corps franc se reforme.
Oui, ça, c'est important.
C'est important parce que les hommes qui sont là ont signé un engagement. Mais ils ont signé un engagement jusqu'à la libération du territoire. Or, maintenant, on va quitter, si tout va bien, on va quitter le territoire et on va passer, on l'espère, en Allemagne. Donc, il faut signer un engagement pour la durée de la guerre. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Alors, il y aura des défections, mais assez peu nombreuses, parce que certains préfèrent rentrer chez eux. Bon, ils disent, bon, ça suffit. Bon, maintenant, on a fait notre devoir, d'autant que la France n'est pas mobilisée. Il faut se rendre compte que la mobilisation générale n'a pas été décrétée. Donc là, nous avons des volontaires, et uniquement des volontaires. Donc le corps franc est réorganisé. Il est engagé dans la bataille des Vosges.
Alors, c'est à quelle date, à peu près, ça ?
Alors, nous sommes de novembre à février.
Alors, c'est important, parce que, du point de vue de l'équipement des hommes...
Là. Ah oui, là, l'équipement, c'est l'absence d'équipement. Oui. C'est l'absence d'équipement. Je ne veux pas oublier que ces jeunes gens sont partis au mois d'août. Il faisait beau. Bon, l'équipement manque. Beaucoup sont encore équipés comme ils l'étaient lors de leur départ de Toulouse. Ils commencent à recevoir du matériel, ils commencent à recevoir des vêtements, car...
les chaussures aussi.
Les chaussures, parce que, oui, à partir du mois de novembre, il y a des chutes de neige. Et on va avoir jusqu'à moins 25 degrés dans les Vosges, au Drumont, moins 25 degrés. 4000 pieds gelés, ce qui ne les empêche pas de repartir ensuite une fois soignés. Car ils ont la foi. Donc c'est la campagne des Vosges dans des conditions particulièrement difficiles. Et... Le corps franc va alors être intégré totalement dans la première armée
de Delattre,
va devenir le 49e régiment d'infanterie, c'est-à-dire le régiment traditionnel de Bayonne. Combien s'aurait souhaité avoir le 18e ? RI, qui est le régiment traditionnel de Pau, mais c'était déjà pris.
Alors la ligne des Vosges, la crête des Vosges est très importante parce que elle était pour les Allemands la frontière, puisque les deux départements alsaciens ainsi que la Moselle avaient été intégrés au Reich. Donc les Allemands vont tenir la crête des Vosges de manière extrêmement puissante. Et là, le corps franc Pomies va s'illustrer au cours de ces combats des Vosges.
Oui, en effet, le corps franc rencontre une opposition particulièrement acharnée. Ce sont des troupes qui sont généralement des troupes d'élite qui sont là, en particulier un régiment SS qui a été rapatrié de la Norvège et qui, dans les Vosges enneigées, se trouve fort bien. Donc, il y a une résistance acharnée, d'autant plus acharnée qu'Himmler était allé leur expliquer qu'il avait intérêt à se battre sérieusement. Et quand Himmler parlait, ça devait vouloir dire quelque chose. Donc, la résistance allemande n'est pas... Ce ne sont pas des combats de retardement, parce que les Allemands n'ont pas l'intention de se retirer. Ils sont sur des positions qu'ils ont fortifiées. Et j'étais il y a quelques semaines précisément en pèlerinage dans les Vosges, en cérémonie de commémoration de la libération, et sur ces pentes là, j'ai pu imaginer ce que ce qu'ont été les combats et les conditions de ces combats.
Alors, il ne faut pas perdre de vue non plus que le territoire français n'a pas été libéré d'un seul coup et que la libération de Paris n'a pas marqué la fin des hostilités en 1944. Et que, par exemple, au moment de ces combats de, des Vosges, non loin de Colmar, qui est dans la plaine, en contrebas, Strasbourg a été libéré avant cette région-là.
Oui, absolument. Colmar, Colmar et Mulhouse sont les dernières, les avant-dernières parties de l'Alsace libérées. Il restera encore
la région d'Haguenau.
Oui, la région d'Haguenau, la région frontière, donc que les Allemands vont aussi défendre avec acharnement.
Oui. Ensuite, passage du Rhin.
Oui.
Donc là, on est sur le territoire allemand. À quelle date à peu près ?
1er et 2 avril, le corps franc traverse le Rhin à la suite des régiments marocains. Ce sont les premiers à avoir réussi le passage du Rhin. Le corps franc passe derrière, alors soit en bateau, ce qui... pour des Pyrénéens, était une lourde épreuve. Autant dans les Vosges, ils pouvaient un peu imaginer. Elle se retrouvait dans les Pyrénées, autant sur le Rhin, il semble qu'elle n'ait pas été toujours très tranquille. Et d'autres sont passés en camion du côté de Spire. Et se sont trouvés immédiatement, bien sûr, dans les combats du bas de Württemberg. Très rude combat mené par la première armée et où de Lattre réalise quelques très belles opérations stratégiques.
Quand la capitulation va intervenir, la partie du corps franc Pommiès, qui est intégrée donc à l'armée de Lattre, se trouve à Stuttgart. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ?
Oui, le 22 avril 1945, le corps franc pénètre dans Stuttgart. Il est le premier régiment d'infanterie français à rentrer dans cette ville pleine de symboles. Et avant les Américains, car là, il y a évidemment... Nous sommes à la fin du conflit. Tout le monde sait qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Et évidemment, la grande politique, la politique internationale, prend le dessus. Chacun espère gagner le plus de terrain possible pour ensuite pouvoir éventuellement le monnayer. Les Américains, qui sont nos fidèles alliés, n'ont pas du tout l'intention de nous laisser une zone importante en Allemagne. Et même s'ils pouvaient ne rien nous laisser, ça serait encore mieux. Bon, donc de Gaulle avait donné à de Lattre des ordres très, très formels, disant « occuper le maximum de terrain, ensuite on pourra négocier ». Donc les Français rentrent dans Stuttgart. Ils devront le quitter, bien sûr, puisque les Américains finiront par négocier une zone d'occupation comprenant Stuttgart. Les Français seront poussés un petit peu plus vers le sud, vers la région de Constance, vers la forêt noire, etc. Mais les Américains tiennent absolument à Stuttgart. Voilà, c'est donc à Stuttgart que ces hommes du 49e vont connaître, vont apprendre... la victoire, la capitulation allemande.
Oui, il ne faut pas oublier que le général de Gaulle a eu quand même tout au long de la guerre certaines difficultés, notamment d'abord avec Roosevelt et avec les Américains en général, et qu'il a manœuvré d'ailleurs superbement pour obtenir que la France fasse partie des puissances victorieuses. Et donc, et sur le terrain, ça s'est donc aussi manifesté par ses actions militaires.
Oui, grâce en particulier au général de Lattre. Il faut bien dire que le rôle de Lattre a été essentiel pour la France.
Et ensuite, Pomies va être présent à Berlin. Vous pouvez en parler.
Oui, en effet, en reconnaissance du travail effectué par le corps franc devenu le 49e RI, bien, le général Delattre va permettre au 49e de participer au défilé de la victoire à Berlin, après avoir participé au défilé de la victoire à Paris. Donc, après avoir défilé sous l'Arc de Triomphe, eh bien, le 49e va défiler sous la porte de Brandebourg. C'est évidemment pour ces hommes quelque chose d'assez extraordinaire. Parti des Pyrénées, il se retrouve dans la capitale du Reich, parmi les vainqueurs, et il est certain que cela restera pour eux un moment assez extraordinaire. Et je voudrais saluer ici Mademoiselle Massy, qui a appartenu au corps franc, qui a joué un rôle important dans le renseignement à Toulouse. Elle a travaillé, entre guillemets, dans la milice et a pu ainsi, en renseignant le commandant Bonne-Maison, qui était le chef des services de renseignement, elle a pu sauver la vie d'un très grand nombre de résistants. Qu'elle soit ici remerciée.
À cette occasion, je voudrais dire que un des mérites immenses de votre livre, c'est de donner une grande foule d'informations, de détails sur un grand nombre de personnes qui ont participé à ces activités de résistance et que souvent on néglige pour résumer un peu facilement, alors que l'histoire, au jour le jour, elle est faite d'un très grand nombre d'actions individuelles, et il me semble que le rôle des historiens, c'est précisément de nous apporter ces données d'une manière précise. Et c'est ce que vous faites dans votre livre, et je pense que de nombreux lecteurs trouveront beaucoup d'informations qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette remarque ?
Je suis d'accord. Oui, j'ai pu donner un certain nombre de détails, de renseignements qui, bien souvent, étaient inédits parce que j'ai disposé d'une documentation importante. J'ai disposé d'archives qui étaient celles de mon père. J'ai également utilisé les archives classiques des armées. Et puis j'ai trouvé beaucoup de témoignages qu'avait recueilli mon père. J'ai continué à en recueillir. Tout ce que j'ai mis dans ce bouquin, finalement, est le résultat de ces recherches et me permet de dire que tout ce que j'ai écrit est vérifiable.
Oui, oui.
Car il a été souvent écrit beaucoup de choses fantaisistes.
Oui, mais ça me paraît très important. Bon, on appelle ça aujourd'hui la micro-histoire, mais parce que c'est une histoire qui se centre sur des éléments très particuliers, très singuliers. Mais justement, le rôle de l'historien, c'est de faire apparaître ces éléments, ces événements, ces actions, ces personnes surtout. Voilà, merci. Merci.